Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes dans l'émission Radio Récré spéciale médiéval et Moyen-Âge sur PFM 99.9. Une émission proposée par des jeunes de la médiathèque ludothèque du centre social Torchy d'Arras. Nous serons en compagnie de Juliette, Manon, Bertie, Capucine, Emmanuel, Camille, Grégoire et Nathanaël. Au sommaire de cette émission, des chroniques, de la poésie, une chanson, une histoire autour du Moyen-Âge, un texte qui résume comment ça se passait au Moyen-Âge, un micro-trottoir réalisé lors du Festival médiéval d'Arras et bien sûr, de la musique. Et on commence avec Manon et sa poésie, et ensuite on retrouve tout le monde pour une lecture de texte qui explique comment ça se passait au Moyen-Âge.
Le chevalier. Le chevalier, accompagné de son fidèle destrier, avec sa grande épée et l'aide de son armée, part défendre son pays. Il revient seulement si sa tâche est aboutie. Le chevalier était forcément noble. Les paysans, eux, participaient aux récoltes. Les chevaliers étaient toujours là pour nous protéger.
Espace-temps, le Moyen-Âge est une longue période qui s'étend sur 1000 ans. Tu t'en doutes, il s'en passe des changements importants au cours de ces siècles. Des hommes partent à la découverte du monde, tel Marco Polo, qui a atteint la Chine. Des religions comme le christianisme et l'islam se développent, des peuples migrent d'un pays à l'autre. Ainsi, les vikings venus du nord débarquent sur les côtes françaises. Des progrès techniques sont réalisés, comme l'invention de la boussole, tu vois. Le Moyen-Âge est riche en événements.
L'âge d'or des monastères. Parmi ceux qui prient, il y a les moines. Ils organisent les pèlerinages. Comme ils sont les seuls à savoir lire et écrire, ils sont aussi chargés de l'éducation et de la diffusion des savoirs. L'imprimerie n'ayant pas encore été inventée, ils recopient des ouvrages existants et les décorent d'enluminures de toutes les couleurs. Dans leurs abbayes, une pièce est réservée à ces travaux, le scriptorium. Certaines abbayes, comme celle de Marbach en Alsace, sont connues dans toute l'Europe pour la qualité de leurs ouvrages.
Le chevalier, lui, fait partie de ceux qui combattent. Quand il a 15 ans environ, il est adoubé, c'est-à-dire qu'il est fait chevalier au cours d'une grande cérémonie. Le jeune homme s'agenouille devant le seigneur qui l'engage à servir. Il lui donne un coup d'épée sur la nuque ou l'épaule. C'est la collée. Il n'est pas blessé, bien sûr. Puis il reçoit des armes, une épée, un bouclier, l'écu, des éperons et un cheval. Lorsqu'il n'est pas à la guerre, le chevalier participe à des tournois pour montrer son agilité.
Les paysans, ils font partie de ceux qui travaillent et représentent la plus grande majorité de la population. Ils cultivent des fruits, des légumes et des céréales et élèvent des animaux, vaches, moutons, porcs et poules. Leur matériel est sommaire. Heureusement, la charrue avec son sac en métal tiré par des chevaux ou des bœufs fait son apparition dans les fermes, les paysans se placent sous la protection du seigneur pour qu'il doit travailler gratuitement pour les labours et les vendanges. Ce sont les corvées, un mot que tu connais quand il faut ranger ta chambre.
Les villes se développent et s'enrichissent. Artisans et commerçants s'y installent, des boulangers, des marchés aux ferrants, des tisserands, des marchands de vin ouvrent boutiques et ateliers. L'animation est à son comble les jours de marché, tout comme aujourd'hui à Paris, la ville la plus peuplée d'Europe. Au XIVe siècle, marchandises arrivent par bateau sur la Seine, puis sont transférées aux Halles. En province, les grandes foires comme celle de Troyes en Champagne attirent des marchands du monde entier. Elle existe toujours, tu peux y aller faire un tour.
Les bâtisseurs de cathédrales. Il n'y a pas une grande ville sans sa cathédrale qui bat parfois des records. En Rouen, la plus haute flèche. Amiens, la plus vaste. Sens, la plus grosse cloche. Elles sont construites par des artisans de génie. Tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, verriers, équipés d'outils parfois très simples. Ils ont souvent représenté la vie de Jésus comme une bande dessinée, bien utile aux fidèles qui, à l'époque, ne savent ni lire ni écrire. Regarde bien leur travail. Deux styles architecturaux se succèdent. Le roman, assez sobre, et le gothique, plus compliqué.
Au fil du temps, de nouvelles stratégies sont adoptées pour faire la guerre, comme la tactique du siège consistant à encercler un château fort, ou à partir du XIVe siècle, une ville ont entouré alors les cités de murailles en pierre. De plus en plus, comme pour se protéger des nouvelles armes de l'ennemi, comme le canon qui envoie des boulets de pierre, de plomb et de fer, faisant des dégâts considérables. Les soldats donnent des surnoms amicaux à leurs canons, comme Margot, la folle, le berger ou la mignonne qui n'avait pourtant rien de bien mignon.
La dame en sa demeure. À la fin du Moyen-Âge, si le château conserve toujours une garnison, un donjon et des murailles, il devient une résidence confortable avec ses quartiers privés, ses salles de réception et ses jardins remplis parfois d'animaux exotiques. Outre l'éducation des enfants, la châtelaine, qui sait lire et écrire, exerce son autorité sur les serviteurs, les paysans et les ouvriers qui travaillent sur le domaine. Elle est toujours très élégante, organise des soirées pour son mari et ses hôtes. Avec musique, lecture et jeux d'échecs, la Renaissance s'annonce.
On continue avec une chronique sur les inégalités au Moyen-Âge réalisée par Manon.
Au Moyen-Âge, il y a beaucoup d'inégalités. Par exemple, les filles n'allaient pas à l'école, les pauvres n'avaient pas les mêmes droits que les nobles, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, elles étaient soumises aux ordres de leur époux. Heureusement, aujourd'hui, ça a bien changé.
On enchaîne à présent avec une petite chanson composée par Juliette, Capucine et Camille.
Les fées s'envolent, les princesses s'arrêtent au sol. Les fées s'envolent, les princesses s'arrêtent au sol. Les chevaux galopent, galopent dans le pré. Les licornes galopent, galopent et s'envolent. Les fées s'envolent, les princesses s'arrêtent au sol. Les fées s'envolent, les princesses s'arrêtent au sol. Ah, oh, aïe, aïe. Les fées s'envolent, les fées s'envolent.
Fin. On fait une première pause musicale avec de la musique médiévale.
Thank you.
Vous êtes toujours dans l'émission Radio Récré, spéciale médiévale et Moyen-Âge sur PFM 99.9. Et maintenant, Emmanuel nous propose une petite histoire sur les sirènes.
La sirène a vu un bateau de pirates qui allait mettre quelqu'un à l'eau. La sirène alla le sauver, mais c'était un piège. Celui qui était dans l'eau la ligotait les bras et la ramena sur le bateau et allait sur une île et les pirates repartent pendant que la sirène était ligotée à un bananier. Un cavalier passa et lui et le cavalier a vu la sirène et le cavalier la délivra et la remet à l'eau. Fin.
À présent, un moment poétique avec Bertille.
Noble et courageux, au tournoi toujours valeureux, devenir chevalier n'est pas un jeu. Une armure tu dois porter, sur ton cheval tu dois galoper, car les ennemis sont arrivés. Fermez le pont-levis, pour se protéger des ennemis, au château, tous à l'abri. Armé d'un bouclier et d'une épée, les voilà partis nous protéger, vive les chevaliers.
Lors de cet atelier, un micro-trottoir a été réalisé sur le festival médiéval d'Arras.
Types de chevaux au Moyen-Âge?
Bah, moi je pense qu'il y a des chevaux pour faire la bataille, il y a des chevaux pour tirer les charrettes, il y a des chevaux pour faire des courses.
Ouh, les différents types de chevaux au Moyen-Âge, alors ça je saurais pas dire. Alors le boulonnais, est-ce que tu connais le boulonnais? Alors le boulonnais c'est un cheval de trait, mais alors je saurais pas du tout dire s'il existait déjà au Moyen-Âge.
Des boulonnais? Des purs sang arabes?
Ah ben j'en sais rien, il faut demander à un chevalier, parce que moi je suis un serviteur et que je m'occupe pas des chevaux.
Différents types de chevaux, mais ça c'est la question piège. Attendez, je vais demander un renfort quelconque. Nico, tu t'y connais en type de chevaux au Moyen-Âge?
Alors il y a le cheval à quatre pattes.
Il y a le cheval à quatre pattes.
Celui avec une corne s'appelle une licorne.
Voilà, la licorne, aussi unicorne si vous êtes un peu anglo. Après il y a quoi encore comme cheval?
Le cheval à deux pattes.
Qu'on appelle un zèbre.
Le cheval à rayures. Le prisonnier, cheval prisonnier.
Le cheval prisonnier qu'on appelle le zèbre.
Le zèbre.
Et après, on a le cheval de trait qui est encore là, je crois. Ouais. Le boulonnais qui est encore là aussi, mais on n'entend plus trop parler de lui. Et après, qu'est-ce qu'on a comme autre cheval? Le cheval de guerre, qui se la pète avec ses grosses plaques d'armure, tu vois, mais qui sont en bourbe. Voilà, c'est tous les chevaux. Enfin, je pense que c'était ça, ouais.
Pouvez-vous nous parler de la condition des enfants au Moyen-Âge?
Alors la condition des enfants au Moyen-Âge, en fait tout dépendait si tu es né chez des paysans ou si au contraire tu es né à la cour. Alors si tu es né chez des paysans, en fait on te met très très vite au travail parce que en fait on a besoin de mains pour travailler dans les champs, pour les travaux quotidiens. Si en revanche tu es né comme princesse ou comme prince, donc dans la noblesse, là en revanche tu reçois une éducation assez importante, alors en religion, en sciences, en histoire, et à partir du moment où tu es où tu as une certaine éducation, effectivement tu entres dans la cour. Après il faut imaginer que au Moyen-Âge les jeunes filles étaient mariées très très tôt.
Alors ils n'allaient pas tous à l'école, ils devaient travailler assez tôt dans les champs, et il y avait beaucoup d'enfants par famille il me semble, mais je sais pas, j'y ai pas vécu.
Ah bah moi je dis qu'il faut qu'ils travaillent, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui bossent. Moi je suis serviteur du seigneur Magnus, et ben si j'avais un fils, et ben il serait serviteur à ma place, parce que c'est pas... et déjà il se tient sur ses deux, je le nourris en plus, il peut bien bosser, hein, c'est un minimum, hein, quoi.
C'était une super condition les enfants au Moyen-Âge, hein. Ils avaient tout le temps à manger, ils avaient tout le temps à boire, oui. Ils étaient tout le temps très propres.
Ils travaillaient jamais.
En fait, c'est l'inverse. Hein.
L'inverse. C'est tout l'inverse de ce qu'on vous dit. Hein. La condition des enfants au Moyen-Âge,
après, ça
c'était
dépend.
Une catastrophe.
Ça dépend, parce que si t'es paysan ou si t'es noble.
Ouais, voilà.
Si t'es noble, c'est vrai que ça c'est mieux.
Si t'étais noble,
si t'es paysan,
ça allait. T'avais à manger, t'avais à boire.
À 6 ans, tu bosses aussi. Hein. Voilà,
si t'étais fils de paysan, tu mangeais des racines et tu mangeais des reste.
Tu étais causette, tu allais chercher de l'eau au puits.
Voilà, donc c'est la condition des enfants moyens, c'était compliqué. Pas de médicaments, pas de médecins, pas de traitement, le froid, les.
Pas de radio, ils faisaient pas de radio.
Il y avait voilà.
Ils enregistraient rien.
Ils enregistraient rien, pas de télé, pas de PlayStation, pas de.
Ou en non, bois, des PlayStation en bois, mais c'est moins.
PlayStation en bois. Mais c'est la game bois. Mais,
la game bois.
Mais du coup, non, les enfants, l'atterri, c'était atroce. Il y avait énormément de morts au niveau des enfants, ne serait-ce que par les bactéries. Voilà.
Comment était l'hygiène des gens au Moyen-Âge ?
Alors, contrairement à ce qu'on peut penser d'habitude, effectivement, on dit tout le temps qu'au Moyen-Âge, on était sale, etc. Mais en fait, c'est complètement fou. Alors, certes, hein, on n'avait pas l'hygiène qu'on a aujourd'hui, mais en revanche, au Moyen-Âge, on avait déjà des rituels de soins et de propreté.
Alors, ça c'est n'importe quoi. C'est pas vrai qu'on se lave jamais. Déjà, moi, je me lave au moins 3 fois par an parce qu'il y a une rivière juste à côté de chez moi. Non, c'est pas vrai. Je me lave régulièrement. Il faut arrêter de dire que. Non, c'est vrai, on se lave. Hein. Voilà. Alors, oui, les dames dans leur château, tout ça, elles ont des bains avec des fleurs dedans. Mais qui c'est qui va aller cueillir les fleurs ? Eh ben, c'est moi ! Parce que c'est moi qui suis le serviteur. Voilà, vous comprenez ?
Magique, parfumé du matin
alors,
au soir.
C'est pareil, je pense que ça dépend des conditions. Voilà.
Ouais, alors même chez les nobles. Hein. Les nobles, ils se douchaient. Enfin, ils se douchaient pas déjà, ils se baignaient, pardon, ils se baignaient.
Il y avait des bains quand même.
Non, même là, il y avait des bains, mais les bains, c'était quoi ? C'était une fois, deux bains par an, si je dis pas de bêtises.
Oh, je sais pas, au Moyen-Âge.
C'était. Au Moyen-Âge, peut-être pas, mais non, les conditions d'hygiène au Moyen-Âge, c'était. Pareil, une fois, c'était très compliqué. Pour les déjections, pour le fait de se laver, pour le même, c'était le Moyen-Âge. En fait, on parle du Moyen-Âge parce que c'est une époque où on parle tout de suite des chevaliers, on parle de la sorcellerie, on parle de ce qu'est le Moyen-Âge sur l'aspect guerrier, chevalier, combat. Mais le vrai Moyen-Âge, malheureusement, c'était beaucoup plus dur que ça, quoi. C'était crade, c'était violent.
C'est pour rien que la durée de vie était beaucoup moins.
La durée de vie était beaucoup moins haute.
Je pense que là, on serait déjà des ancêtres.
On serait déjà à la retraite depuis longtemps,
voire mort.
Peut-être même mort. Hein,
voire mort.
Non, le Moyen-Âge tel qu'on en parle, c'est magique. Mais le Moyen-Âge tel qu'il était en vrai, c'était très compliqué, quoi. Surtout au niveau hygiène. Décès, bactéries, maladies, et puis pour un tout en rien, vous faisiez tuer, violer, voilà. Et après, tout dépendait si vous y êtes parti du clergé, du tiers état, des nobles, tout dépendait. Mais même
sans doute une bonne époque.
Même en tant que noble, vous n'étiez pas à l'abri d'un assassinat. Hein. Assassiner un gamin de 6 ans, ça ne les dérangeait pas fort. Hein, Donc ouais, c'était une époque particulière. Mais les constructions, les châteaux, la guerre, tout ça, c'est toutes des valeurs et toutes des choses qu'on a encore aujourd'hui qui sont encore magnifiques à visiter, les cathédrales, c'est magnifique. Mais à l'époque, la vie au Moyen-Âge était très compliquée.
Qu'est-ce qu'un chevalier pour vous ?
Pour moi, un chevalier, c'est un héros.
Un chevalier, pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de la noblesse au Moyen-Âge et qui combat. Et du coup, qui fait ni partie des personnes qui produisent à manger, ni des personnes du clergé, voilà, qui est souvent un homme de noble descendance, voilà.
Un chevalier pour moi, bah vous savez, c'est quelqu'un qui travaille pour moi, parce qu'en fait, moi, je suis seigneur, je m'appelle le seigneur Magnus. Donc, c'est quelqu'un qui bosse pour moi, voilà, quand j'ai un petit problème, je l'envoie, il règle le problème.
Un chevalier pour moi, c'était quelqu'un de l'ancien temps qui avait des règles, et puis, pas des paysans, pas des gens pauvres, c'était surtout chez les gens riches. Et ils partaient en croisade où ils se battaient. Mais c'était surtout des gens qui s'entraînaient pour faire la guerre, pour se battre.
C'est un homme à cheval.
C'est un guerrier également. Il a une monture, il a des armes, il a une armure, tu vois. Et c'est ça le chevalier du Moyen-Âge. Voilà. Et évidemment, il a des armes, hein. Il a un bouclier.
Alors, un chevalier, c'est quelqu'un qui a déjà prêté un serment de protéger les faibles, qui a prêté serment auprès d'un roi en général, hein, ou une reine, c'est beaucoup plus rare, hein, et qui doit combattre, donc.
Quel est votre personnage préféré des légendes arthuriennes ?
Perceval ?
Carodoc. bien sûr. Le gras, c'est la vie.
Lancelot.
C'est le roi Arthur. Voilà, c'est forcément, c'est le meilleur, c'est le plus haut. Moi, je suis prince et mon but, c'est de devenir roi. Donc, le roi Arthur, c'est mon personnage préféré. Ouais.
Alors, moi, j'aime bien la fée, Morgane la fée. J'aime bien la fée Morgane parce que je trouve que c'est un personnage qui est intéressant et on ne sait pas trop si elle était gentille ou méchante, donc c'est assez intéressant.
En quoi étaient faites les armures ?
Ah, les armures, elles étaient faites en ferraille, parce que c'est un peu ce qui résiste le plus aux épées ou aux flèches.
Oh, les armures, alors je vais pas te mentir, j'en ai pas porté beaucoup. Moi, en tant que prince, voilà, j'allais pas au combat, ça me faisait un peu peur. Donc c'est les chevaliers qui allaient avec leurs armures combattre. Hein. Moi, je n'y connais rien du tout. Hein.
Fait en quoi, les armures ?
C'était fait en quoi ? En métal, je crois, en acier, enfin un truc bien solide, quoi, parce que comme ils combattent avec, voilà, il faut que ça soit bien protégé, quoi.
En fer et en maille, en côte de maille. La côte de maille, c'est du fer, mais ça fait tous des petits trous comme ça, tu sais, tout le long, qui sont attachés.
Et
ça.
Voilà. Que récoltaient les paysans à cette époque ?
Ils récoltaient des céréales, parce que bon, on n'avait pas encore les légumes de maintenant. Du blé, des haricots, tu vois, bon ben voilà.
Bon, je pense qu'ils, je ne sais pas trop, mais je pense qu'ils récoltaient du blé, des céréales surtout, principalement, puis des légumes aussi. Mais il y avait certaines légumes qui n'existaient pas, qui n'étaient encore pas connus chez nous, comme les pommes de terre ou autres. Les tomates.
Alors je pense qu'ils récoltaient des céréales type de l'orge, un peu de blé, mais plus du sarrasin, des choses comme ça. À mon avis, c'était des céréales anciennes.
Ah, ils mangeaient pas la même chose que nous. Donc les pommes de terre et tout ça, ça n'existait pas. Ils avaient beaucoup de choux, des fèves, beaucoup aussi. Ce genre de choses.
C'est quoi votre installation ?
Alors c'est un tour à bois et plus particulièrement un tour à perche. C'est-à-dire qu'à l'époque médiévale, la seule force qu'on avait, c'était la force humaine. Du coup, on mettait une perche en bois ou une branche d'arbre parce qu'on pouvait travailler directement en forêt, qui servait avec une corde qu'on entoure autour de la pièce qui fait tourner, et ben à la faire tourner tout simplement. J'ai une pédale, moi quand j'appuie sur la pédale, ma sangle en cuir vient faire tourner la pièce.
Et
avec un outil, tout ce que j'ai à faire. C'est la creusée. Et moi je fais des écuelles. Pour ceux qui préfèrent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est une écuelle, je fais des bols. Pour pouvoir manger la soupe aux choux justement. La soupe de fèves. Les oignons, manger aussi beaucoup d'oignons.
Ah bah, ils récoltaient beaucoup et c'est moi après qui récupérais. Donc du blé, de la viande, ils cultivaient. Voilà, ils élevaient des animaux et moi derrière, en fait, j'arrivais, je récupérais tout.
On retrouve à présent Grégoire qui nous propose une chronique sur la cavalerie.
La cavalerie, c'est l'armée du Moyen-Âge. Elle se compose du chevalier, appelé l'aiguillier, lorsqu'il commence son apprentissage avec son cheval, qui est appelé destrier. La cavalerie protège le seigneur et le château fort.
Pour terminer cette émission sur le thème du médiéval, ils ont créé une petite histoire sur l'école au Moyen-Âge.
«
Il était une fois un petit garçon riche nommé Thibaut. On le retrouve au réveil avant d'aller à l'école. Marie-Antoinette, sa mère, va le réveiller.
Thibaut, lève-toi, il est 5h, tu vas être en retard à l'école.
Oh non !
Dit Thibaut. Charles, le mari de Marie-Antoinette, accompagne son fils à l'école.
Allez, dépêche-toi, tu es trop lent.
Arrivé à l'école, Thibaut rejoint ses copains Jean-Eudes, Hippolyte et Grégoire. Les élèves se battent en formant deux camps, les Français contre les Anglais. La châtelaine arrive.
Ce n'est pas bientôt fini, ce bazar. Rangez-vous.
Puis Perceval chuchote.
La revanche se fera à la prochaine récré. On va vous écrapouiller.
Une fois en classe, la châtelaine rouspète.
Je vous avais dit de ne plus jouer à ces jeux de guerre.
Aloïs rouspète également.
Mais madame la châtelaine, on s'entraîne à devenir chevalier.
La classe répond.
Oui, c'est vrai !
Ah, la châtelaine, elle n'est pas contente.
Un peu de tenue, s'il vous plaît. Vous pourrez être chevalier plus tard. Allez, sortez vos cahiers, votre plume, interrogation surprise !
Grégoire soupire.
Oh non, vous ne pouvez pas nous faire ça !
Il a raison,
dit Thibaut. Les élèves sortent en récré. Perceval dit.
Allons battre les Français.
Mais Arthur n'est pas d'accord.
Jean, et assez, tu fais beaucoup trop ton chef. Je peux venir dans votre clan ?
Oui, tu es le bienvenu,
dit Hippolyte.
Moi aussi ?
Demande Aloïs et Perceval.
La France ne refuse personne,
dit Jean-Eudes. La châtelaine revient.
En classe ! Je n'ai pas été assez clair ?
La classe répond.
Oui, mais...
Je ne veux rien savoir,
répond la châtelaine, très énervée.
Pour demain, je veux des lignes, et le prochain que je vois jouer à ce jeu aura une fessée. Allez, au travail.
À la sortie de l'école, Jean-Eudes, Thibaut, Hippolyte et Grégoire discutent.
Aujourd'hui, ce n'était pas une super journée,
dit Hippolyte. Puis ses amis répondent.
C'est vrai.
C'est vrai.
Grégoire dit d'un ton fatigué.
J'espère que demain sera une meilleure journée.
Sur ce, je vais vous laisser,
dit Thibaut en s'en allant. Puis c'est au tour de Jean-Eudes de nous quitter.
À demain,
dit-il, et tout le monde s'exclame.
Au revoir, à demain.
Nobles avaient le droit d'aller à l'école.
Le plus souvent, c'était les moines qui enseignaient.
Les élèves écrivaient avec une plume.
C'était l'émission Radio Récré, spéciale médiévale et Moyen-Âge sur PFM 99.9. Au revoir à toutes et à tous, et à bientôt sur Radio PFM. Et on se quitte en musique, en compagnie de Mano et le titre La Tribu de Dana. Et puis, derrière, un petit bonus, le petit bêtisier. qu'ils ont réalisé également lors de cet atelier.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prêtes à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine, où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et car la tribu de Dana appartenait à ces terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mises à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
Je savais pas et je m'en fiche.
Juliette.
Oui.
Chef, que je commence là.
Bah non. Est-ce que j'ai un jus
de Juliette?
C'est pas drôle de détruire.
Attic, attic, attic.
Arrête.
Manuel, arrête.
Quand
tu
Gadji.
C'est Juliette que tu t'appelles Juliette.
Bah sinon comment te le dirais mille fois. En fait,
est-ce que tu m'entends? Emmanuel, est-ce que tu m'entends?
Bien le camembert au miel.
Un peu de la laine Paris.
En fait, j'aime pas le camembert.
Super, bonne nouvelle.
Adigatique.
T'es